La colère des croyants. Si, selon l'idéal judéo-grec, l'ordre marchand représente l'aboutissement bienvenu du progrès et de l'individualisme, il constitue aussi, pour d'autres croyants, le pire ennemi. Parce que la liberté humaine y passe avant les ordres de Dieu. Parce qu'il remet notamment en cause la stabilité de la famille, dont dépend la transmission de la foi. Ces croyants reprendront à leur compte les critiques laïques émises contre le marché et la démocratie. Les deux grandes religions prosélytes, le christianisme et l'islam, seront au cœur de cette bataille. Chacune, à sa façon, reprendra ses critiques pour en faire même, pour certains, des justifications de conflits et de violences entre eux et contre l'ordre marchand. Certains mouvements chrétiens reprochent déjà au marché et à la démocratie de sécréter des désirs futiles, de favoriser la luxure et l'infidélité, de commercialiser des valeurs morales, de laisser la science penser le monde autrement que le décrit la lettre des textes sacrés, de renoncer à donner un sens à la mort, d'édicter un droit différent de celui de la Bible. Ils s'opposeront, en particulier, à toute forme d'avortement, de contrôle des naissances, d'euthanasie. Ils regretteront que les préoccupations matérialistes éloignent les hommes des interrogations sur l'au-delà. Ils proclameront, pour certains, la suprématie des valeurs chrétiennes sur les droits de l'homme et même sur la raison. Certains d'entre eux iront jusqu'à considérer que l'usage de la force est théologiquement licite. L'Église catholique, premier empire nomade, hors sol, s'est longtemps opposée par la force à la raison, à la science, au progrès, à l'ordre marchand, aux droits des capitalistes comme à ceux des entrepreneurs et des travailleurs, avant de s'y résigner. Elle redeviendra, dans certaines de ses composantes, de plus en plus radicale, plus proche de ses idéaux initiaux. Certains catholiques reprocheront de plus en plus violemment au libéralisme de nier l'ordre divin. Ils s'opposeront de plus en plus à la démocratie, au marché, aux valeurs judéo-grecques, pour défendre sans compromis la pureté de la foi. D'autres dans l'Église continueront à défendre encore la non-violence, l'amour et la justice. Des églises protestantes seront à l'avant-garde de ces luttes. En particulier l'évangélisme, venu de plusieurs États du sud des États-Unis, la Bible Belt, et qui regroupe plus de 70 millions de ressortissants américains, dont plusieurs centaines de milliers de pasteurs propagandistes. L'évangélisme fait déjà la loi dans certains départements de nombreuses universités américaines. Il y censure l'enseignement des sciences et des autres religions. Ces églises seront de plus en plus influentes politiquement. Elles inspireront de plus en plus de décisions du Congrès et de l'appareil d'État américain. Les discours et les actes de l'actuel président en sont déjà eux aussi très influencés. À les entendre, par un lent glissement sémantique, ce ne seront plus les valeurs de la démocratie que l'Occident devra défendre, mais celles de la chrétienté. Ces églises inciteront les femmes à rentrer à la maison afin de faire de plus en plus d'enfants. Au moment où l'émergence de l'hyper-empire menacera sérieusement l'existence même des États-Unis, certaines de ces églises pourraient aller jusqu'à encourager l'Amérique à mener une guerre contre l'islam, voire contre la démocratie et contre le capitalisme. Seule parmi les grandes démocraties à n'avoir jamais connu un passé de dictature, les États-Unis pourraient alors, vers 2040, être la proie d'une tentation théocratique, explicite ou implicite, sous la forme d'un isolationnisme théocratique où la démocratie ne serait plus qu'une apparence. En Afrique, comme en Amérique latine, les citadins dont la misère ne fera qu'empirer seront de plus en plus sensibles aux discours de ces églises évangélistes, devenues des puissances financières, idéologiques, militaires et politiques majeures. Au Brésil, plus de 30 millions de personnes en sont déjà adeptes. Elles sont présentes au Japon, en Inde, en Chine, en Indonésie. Elles s'entendront, comme elles l'ont déjà fait, avec des mafias, des empires du crime, des maîtres du jeu, et pourraient fort bien s'allier, ça et là, avec des pirates laïcs, trafiquants d'armes, de femmes ou de drogue. elles rivaliseront aussi frontalement avec l'islam, avec lequel la concurrence sera acharnée. Elles défendront les chrétiens dans les pays où ceux-ci sont minoritaires, comme au Liban, en Syrie, en Irak, en Palestine. Elles tenteront même, non sans un certain succès, de convertir des musulmans, minorités kurdes d'Irak et de Syrie, berbères du Maghreb, en leur apportant une aide sociale et en leur promettant des visas vers l'Amérique ou l'Europe en tant que chrétiens persécutés. En Europe, on verra aussi des églises chrétiennes s'opposer explicitement au capitalisme. On entendra des fidèles, des partis catholiques, des autorités religieuses dénoncer le poids du marché, la liberté de circulation et sa traduction institutionnelle, l'Union européenne. Les valeurs religieuses retrouveront une visibilité politique. Déjà, parmi le personnel politique européen, personne n'aurait osé, il y a peu encore, poser le problème de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en termes religieux, ni faire de la question théologique une des dimensions du débat constitutionnel européen. Les partis d'extrême droite prendront de plus en plus appui sur ces valeurs religieuses pour défendre leur programme. Ils proposeront, eux aussi, explicitement, de renvoyer les femmes à la maison pour élever les enfants qui permettraient de se passer de l'appoint des immigrés et de combattre d'autant mieux l'islam. Plusieurs démocraties européennes pourraient un jour inscrire le christianisme dans leur constitution, voire devenir ouvertement des théocraties. Le Vatican jouera un rôle central dans cette évolution. Il pourra choisir de faire alliance avec les autres monothéismes ou au contraire d'inciter à leur faire la guerre, en particulier à l'islam. Dans l'islam aussi, des forces très variées mêleront de plus en plus dans leurs critiques démocratie, marché, globalisation, États-Unis, Israël, Europe, judaïsme, chrétienté. Si rien n'est fait, un divorce majeur aura lieu entre une partie de l'islam et l'Occident. En 2006, plus d'un milliard d'êtres humains sont musulmans, soit un tiers de moins que de chrétiens. Bien qu'en soi l'islam ne soit pas plus intolérant que les autres monothéismes et qu'il ait apporté la pensée judéo-grecque à l'Europe, les pays où il domine aujourd'hui sont tous des théocraties ou des dictatures laïques, hormis quelques démocraties en devenir, Turquie, Algérie, Maroc, Koweït, Sénégal. Il est pratiquement impossible dans ces pays de construire des églises ou des synagogues, de se convertir à une autre religion, de vivre de façon athée, d'épouser un ou une non-musulman ou musulmane sans qu'ils, elles, se convertissent. L'idéologie dominante consiste à croire que toute réponse à toute question est dans le Coran, que tout intellectuel est inutile, que l'origine de tout problème, du sida à la misère, est due aux infidèles. Économiquement, socialement, culturellement, ces pays sont parmi les moins développés du monde, on traduit dans l'ensemble des pays musulmans moins de livres étrangers que dans la seule Grèce, bien que les hasards de la distribution des ressources naturelles fassent de certains d'entre eux les plus riches du monde. Pour l'instant, très rares sont les voix à l'intérieur de l'islam pour réclamer sa mise en conformité avec les droits de l'homme. Un jour, sans doute, sous l'effet conjugué de la croissance économique, de l'appel de la jeunesse et des femmes, des théologiens le conduiront sur la voie de la tolérance et de la démocratie. Ils insistent sur les sourates datant d'avant 622, plus que celles qui suivent, et retrouvent la tradition philosophique d'Ibn Rushd. En attendant, principal concurrent du christianisme, et comme lui prosélyte, l'islam voudra, dans certaines de ses composantes minoritaires, retrouver son lustre du XIe siècle, se rassembler de Cordoue à Bagdad, puis s'étendre à l'ensemble de la planète, par la démographie, par la conversion, voire dans l'esprit de certains, par la guerre. La figure dominante de l'islam n'est d'ailleurs pas le fidèle, mais le pèlerin, le prédicateur, le converti, le prosélyte. La conversion y est, en principe, individuelle, sans connotation politique. Elle doit se faire au nom d'un idéal de pureté, de solidarité, de soumission au pouvoir masculin. En fait, toute conversion est irréversible. Il est interdit à un musulman de changer de religion, en général sous peine de mort. La conversion est et sera aussi pour certains politique. L'islam s'efforcera de rassembler ceux qui partout critiquent l'ordre marchand et de convertir nombre de laïcs issus de ce que j'ai nommé plus haut la coalition critique. En promettant l'appartenance à une communauté, l'Oumma, l'islam recueillera de plus en plus d'écho chez nombre d'isolés, de faibles, de vaincus, de révoltés. Il mènera une action sociale auprès des plus démunis, proposant de leur fournir ce que le marché n'offre pas, des formes concrètes de solidarité, de charité, de dignité, permettant d'échapper à la solitude et d'espérer en un paradis. Sa capacité à convertir n'est pas encore considérable. En France, par exemple, seulement 3000 personnes se convertissent chaque année à l'islam, et les convertis n'y sont en 2006 que 70 000. Le rythme ne devrait pas augmenter. C'est la démographie qui sera le principal facteur de croissance du nombre des musulmans. Ils seront près de 1,8 milliard en 2020, soit le quart de la population mondiale, et auront alors sans doute dépassé les chrétiens. Leur expansion diminuera avec la croissance économique, qui réduira leur taux de natalité, l'une des plus élevées du monde. Les maîtres à penser les plus intransigeants de l'islam exigeront des fidèles, où qu'ils soient, de ne pas obéir à d'autres lois que celles de Dieu et de refuser toute constitution laïque. Tout commence avec Ibn Hanbal, 780-855, et Ibn Taymiyyah, mort en 1328, qui entendaient imposer une obéissance littérale au texte. Puis vint Abdel Wahhab, 1703-1792, aujourd'hui encore très influent, qui affirmait qu'un musulman ne doit pas obéir à une loi autre que le Coran, refusait l'intercession des saints et excommuniait, takfir, les libéraux, faisant l'apogée de la salafia, la trace des ancêtres. Dans la même ligne, ceux qui suivent aujourd'hui le théologien pakistanais Sayyid Maududi, 1903-1979, hostile à la création d'un État laïque pakistanais lors de la partition de l'Inde, interdisent l'obéissance à toute autre législation que celle du Coran, la seule souveraineté étant pour eux la souveraineté politique exclusive de Dieu seul. Maududi présentait l'islam comme la troisième voie entre capitalisme et socialisme et voulait faire de l'islam rassemblé un État théocratique. Pour que la loi de l'islam puisse être ainsi rigoureusement respectée et ne soit pas remise en cause par sa confrontation avec des systèmes de valeurs différents, des mouvements de plus en plus nombreux appelleront à la constitution d'un empire théocratique musulman, ce qui passera, pour certains d'entre eux, par la guerre. Pour quelques-uns, cet empire devra d'abord se reconstruire sur les terres des temps de gloire, s'étendant de Cordoue à Bagdad. Il y a 20 ans, Saïd Qotb, leader des frères musulmans, disciple de Maududi, appelait à une révolution islamique permettant le passage de la Jahiliya, période anté-islamique, à la Hakimiya, la souveraineté de Dieu. Rébellion totale en tout lieu de notre terre, chasse aux usurpateurs de la souveraineté divine qui dirigent les hommes par des lois venues d'eux-mêmes. Pour lui, il faut traduire la sourate 12-40 qui dit « le hukum n'est qu'à Dieu » par « le pouvoir suprême n'est qu'à Dieu » et non pas, comme classiquement, par « le jugement n'appartient qu'à Dieu ». Là est le renversement, une théocratie au lieu d'un rapport moral individuel à Dieu. Son projet consistait en la fusion de l'Oumma Islamiyya, la meilleure communauté surgie pour les hommes, et du Dar al-Islam, le royaume régi par la loi islamique. Qotb, dont les disciples sont encore innombrables, souhaitait combattre tout musulman non fidèle à sa vision de l'islam et tous les infidèles. Aujourd'hui, parmi d'autres, le Hizb ul-Tahrir, parti de la libération, basé à Londres, appelle lui aussi à la renaissance de ce califat par la guerre, Harb. Dans l'islam chiite, l'imam Khomeini voulait, dès les années 1960, imposer l'idée de la guerre comme une arme de conversion et faisait l'apologie du martyr, du suicide, du tchahid, l'épée, écrivait-il, et la clé du paradis. Pour d'autres encore, la guerre devra viser le monde entier. L'empire de l'islam devra s'étendre à la planète, sans centre ni nation dominante, pour en faire une sorte d'hyper-empire théologique. Les partisans de cette guerre islamique pour la reconquête du califat ou pour la conquête du monde définissent aujourd'hui une stratégie militaire en trois étapes. Dans les territoires où il est encore minoritaire, l'islam devra pratiquer le Dar al-Soul, la paix momentanée, laquelle pourra être dénoncée à tout moment. Dans les territoires où il aura converti ou chassé une fraction significative de la population, il devra installer un Dar al-Harb, ou zone de guerre. Les derniers croyants à d'autres monothéismes y seront provisoirement tolérés, avec un statut inférieur, celui de dhimmi, protégé. Les adeptes d'autres philosophies et les athées en seront chassés. Dans les territoires où le pouvoir musulman sera devenu totalement dominant, tous les croyants à un autre monothéisme devront être convertis ou chassés. Les juifs, parce qu'ils n'ont pas accepté le Coran à Médine, les chrétiens, parce qu'ils placent Jésus au-dessus de Mahomet. Tous les infidèles y seront déclarés ennemis parce que l'incroyance est une seule nation. Certains groupes qui adopteront cette stratégie, comme Al-Qaïda lors de sa création en 1996, viseront d'abord à chasser les troupes chrétiennes du voisinage de La Mecque, où elles stationnent depuis 1991. Même s'il leur faut pour cela combattre des régimes arabes. La fitna, la discorde entre musulmans, sera donc pour eux salutaire. Ils voudront ensuite éliminer les chrétiens et les juifs des lieux saints d'Irak et de Jérusalem, puis prendre le pouvoir au Liban, en Égypte, en Afrique du Nord, en Asie centrale, en Indonésie, au Pakistan. Ils réclameront ensuite l'expulsion de tous les tenants de la philosophie judéo-grecque hors des autres terres antérieurement conquises par l'islam, de l'Espagne à la Chine. D'autres groupes, comme Al-Qaïda aujourd'hui, prôneront, avant même de tenter de restaurer l'Empire musulman, une guerre sainte immédiate contre l'Empire américain, Israël, l'Europe, le marché, la démocratie. Comme les nihilistes de la fin du XIXe siècle, ils ne chercheront qu'à détruire, sans avoir le projet même utopique d'une autre société à substituer à celle qu'ils condamnent. Al-Qaïda ne sera d'ailleurs bientôt plus qu'un mouvement parmi d'autres, inspirateur d'autres groupuscules surgissant d'initiatives locales. D'autres mouvements, les plus nombreux, mettront l'islam au service de revendications nationalistes, comme ont toujours fini par le faire les idéologues de l'islam, depuis les Almohades au XIIe siècle jusqu'à ceux du XVIIIe siècle, puis le Rafa turc, le Fils algérien, le Hamas palestinien, les Frères musulmans d'Égypte et le Hezbollah libanais. Le monde asiatique, qui réunira très bientôt une majorité de la population du globe, sera lui aussi concerné par ces enjeux. Si nul ne fait la guerre au nom du bouddhisme, du confucianisme ou de l'hindouisme, l'islam tentera de prendre le pouvoir absolu dans tous les pays d'Asie où il domine déjà, du Pakistan à l'Indonésie. Là se trouveront d'ailleurs de très nombreuses écoles religieuses extrémistes. Par ailleurs, nombre de cultures nationales utiliseront l'arme religieuse pour se défendre, comme les Tibétains, et pour reconquérir une identité nationale perdue. Enfin, diverses sectes aux origines diffuses, comme celle de Moon en Corée, de Falun Gong en Chine ou l'Église de Scientologie aux États-Unis, se développeront grâce au vide spirituel et moral creusé par l'hyper-empire. On compte déjà plus de membres de Falun Gong, dont le chef Li Hongji est réputé avoir sauvé 80 mondes, que d'inscrits au Parti communiste chinois. Et certaines de ces sectes s'allieront elles aussi avec les partenaires les moins fréquentables pour se jeter dans la mêlée avec toutes les armes. Les armes de l'hyperconflit. De tout temps, l'issue des guerres s'est jouée sur la détention d'armes nouvelles et sur le prix attaché par chaque belligérant à la vie de ses propres soldats. En leur temps, les archers de la bataille de Crécy, les chars de combat de la Première Guerre mondiale, l'arme atomique de la Seconde Guerre mondiale décidèrent du sort des batailles. De tout temps, de nouvelles armes sont apparues, à la fois comme les produits et comme les accoucheurs de technologies civiles. Le propulseur est né avec le levier, les armes à feu avec la mécanique, les chars avec l'automobile. Inversement, c'est dans l'armée que sont nés le télégraphe, la radio, l'énergie, le nucléaire, Internet, entre bien d'autres novations technologiques majeures. Dans les 50 prochaines années, de nouvelles technologies seront développées par les armées avant d'être utilisées sur le marché civil. Pour les besoins de la défense ou de la police, les gouvernements financeront des recherches nécessaires à la mise au point des technologies de l'hypersurveillance et de l'autosurveillance. Inversement, ces technologies auront ensuite des applications civiles. Ces futures armes seront d'ailleurs essentiellement fondées sur le concept de surveillance. Les armées développeront à la fois des infrastructures numériques d'ubiquité nomade, des systèmes de surveillance des mouvements suspects, des moyens de protection d'installations stratégiques, des réseaux d'intelligence économique. Des robots dissimulés en territoire ennemi et des drones, robots volants, relayeront des données, détecteront des agents chimiques ou biologiques, serviront d'éclaireurs à l'avant de détachements d'infanterie confrontés à des zones minées ou à des angles morts. Des logiciels de simulation des combats seront en permanence réactualisés au plus proche des champs de bataille. Par ailleurs, de nouvelles unités de combat intégreront des moyens de simulation, de surveillance et de frappe. De nouveaux réseaux et outils d'ubiquité nomade permettront aux combattants de rester connectés et de simuler toutes les situations. Des vêtements intelligents serviront à fabriquer de nouveaux uniformes. De nouveaux matériaux permettront de concevoir de nouveaux boucliers. Des technologies de simulation en trois dimensions serviront à préparer et conduire les combats. Des robots serviront de substituts aux combattants. Des systèmes électroniques, e-bombes, pourront détruire des réseaux de communication et rendre aveugle et sourde une armée. Les Marines joueront un rôle nouveau dans la lutte contre les trafics, la surveillance de l'immigration et la protection des détroits. L'aviation de chasse n'aura plus la même utilité qu'aujourd'hui et perdra son influence sur les états-majors et les budgets. Les nouvelles armes, dites conventionnelles, seront d'autant plus nécessaires que les armes non conventionnelles, nucléaires et autres, se trouveront de plus en plus disséminées. Les 5 grandes puissances autorisées par les traités à disposer de l'arme nucléaire disposeront encore durablement de plus de 5000 têtes nucléaires, pour l'essentiel placées sur sous-marins et lancées par des fusées balistiques ultra précises. Parmi ces 5 puissances, certaines se réserveront aussi la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire à courte portée, comme armes d'opération et non plus seulement de dissuasion. Celles-ci pourraient même être à ce point miniaturisées qu'elles seraient utilisables par un seul combattant, comme c'était déjà le cas durant la guerre froide. L'Inde, Israël, le Pakistan, depuis 30 ans puissance nucléaire, se doteront eux aussi de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins balistiques à capacité nucléaire, susceptibles d'atteindre toute capitale potentiellement hostile ou rivale. La Corée du Nord, qui vient de procéder à son premier essai d'armes nucléaires, se dotera elle aussi de fusées balistiques d'une portée supérieure à 7000 km au motif affiché de se prémunir contre toute tentative de déstabilisation de son régime. Devant cette menace, le Japon n'hésitera plus longtemps avant de se doter d'armes du même type, afin de se protéger de celles que pourraient lancer contre lui les dirigeants de Pyongyang. Il lui suffira de 4 mois, à partir du moment où la décision sera prise, pour disposer de l'arme. L'Iran, évidemment, s'en dotera, ou s'en approchera de fort près, sauf si un affrontement, dont il sera question plus loin, l'en empêchait. D'autres pays feront de même après lui, et d'abord l'Égypte et la Turquie, puis sans doute l'Indonésie, l'Australie, le Brésil et l'Arabie saoudite. Au total, avant 30 ans, plus de 15 pays seront ouvertement dotés d'armes nucléaires et des moyens de les lancer. La pénurie d'énergie poussera aussi à autoriser les pays les plus divers à se doter de centrales nucléaires civiles. Cela les conduira à utiliser comme combustible, sous le nom de MOX, des déchets recyclés, ce qui multipliera encore les risques de prolifération et de disparition lors des transferts de ces déchets radioactifs qui pourront être utilisés dans la fabrication d'armes radiologiques mêlant déchets nucléaires et explosifs conventionnels. D'autres armes, chimiques, biologiques, bactériologiques, électroniques, nanotechnologiques, verront ensuite le jour. Comme pour les nouvelles technologies civiles qu'elles préfigureront, on cherchera à augmenter leur puissance, leur miniaturisation, leur précision. Des armes chimiques viendront tuer des dirigeants sans pouvoir être détectés. Des épidémies de masse seront déclenchables à volonté. Des armes génétiques complexes seront un jour spécialement dirigées contre certains groupes ethniques. Des nanorobots de la taille d'un grain de poussière, dit gelée grise, effectueront des missions de surveillance furtive et attaqueront les cellules du corps des ennemis. Puis, lorsque les techniques de clonage animal auront progressé, on confiera ces missions à des animaux clonés, à des bombes animales vivantes, à des chimères. Ces armes ne seront pas uniquement développées par les laboratoires militaires de grands pays, mais aussi par de grandes firmes, des entreprises cirques, qui y trouveront de nouveaux marchés. L'armement restera, comme toujours, au cœur de l'appareil industriel, et les marchés publics seront, jusqu'à la mise en place de l'hyper-empire, tournés pour l'essentiel vers le secteur de l'armement. Les grandes firmes d'assurance et les compagnies de mercenaires prendront ensuite le relais. La plupart de ces armes seront également accessibles aux petites nations, aux non-États, aux corsaires, aux pirates, aux mercenaires, aux maquis, aux mafias, aux terroristes, aux trafiquants de toutes sortes. Par exemple, dans un avenir proche, il sera possible de fabriquer une e-bombe pour seulement $400 à partir d'un condensateur, d'une bobine de cuivre et d'un explosif. Armes chimiques, radiologiques, biologiques seront ainsi à la portée de toutes les bourses. Il sera possible de faire de plus en plus de morts avec des moyens rudimentaires. Dans les villes et les transports de masse, l'encombrement multipliera l'efficacité des armes les plus sommaires. Enfin, et peut-être surtout, comme toute guerre ne peut se gagner que si les peuples qui la mènent la jugent juste et nécessaire, et si est maintenue la loyauté des citoyens et la croyance en ses valeurs, les principales armes de l'avenir seront les instruments de propagande, de communication et d'intimidation. S'armer, s'allier. Face à ces menaces multiformes, dont elles seront les premières cibles, les démocraties de marché, et en particulier les maîtres de l'ordre polycentrique, se rendront compte qu'elles ne peuvent plus réagir en ordre dispersé, et que leur budget de défense serait mieux utilisé si leurs équipements étaient techniquement compatibles et placés sous un commandement coordonné. Les États-Unis continueront de moderniser tous leurs systèmes d'armes, conventionnels, électroniques, nucléaires, chimiques, bactériologiques. Une unité nouvelle de l'US Army, le Future Combat System, sera bientôt composée de troupes au sol très mobiles, équipées d'armes conventionnelles de haute précision, d'un réseau de communication, de moyens de simulation, de robots et de forces aériennes avec et sans pilote. Cette unité pourra être déployée en moins de 4 jours n'importe où dans le monde. Le délai entre la détection d'une cible et sa destruction deviendra quasi nul, alors qu'il était de 3 jours lors de la guerre du Golfe et de 5 minutes lors de la guerre d'Irak. Un tel système n'aura de sens que si les États-Unis se dotent
par un réseau de satellites d'une infrastructure numérique planétaire. Le coût de ces armements nouveaux est considérable. Les États-Unis y consacreront 500 milliards de dollars. 1 million de soldats américains resteront pour un temps déployés sur 4 continents, appuyés par des milliers d'avions et navires avant de se replier sur la seule défense du territoire national américain. Pendant les 40 prochaines années, la défense continuera de représenter plus du quart du budget fédéral américain, avec parfois d'immenses gaspillages entraînés par la nécessité de créer des emplois dans toutes les circonscriptions électorales des congressmen dont la voix restera nécessaire au vote du budget de la défense. Les Européens, qui dépensent ensemble aujourd'hui pour leur défense 5 fois moins que les États-Unis, devront, après avoir beaucoup critiqué le bellicisme des Américains, trouver eux aussi les moyens de financer ces infrastructures numériques et ces systèmes d'armes. Pour le faire, ils créeront des forces armées et de police de plus en plus imbriquées, harmoniseront leur matériel et se coordonneront avec les États-Unis, ne serait-ce que pour communiquer et échanger des données. La Chine et l'Inde feront aussi croître leur budget militaire, aujourd'hui 15 fois inférieur à celui des États-Unis, pour atteindre au moins le niveau anglais ou français. Elles se doteront des mêmes armes fabriquées pour l'essentiel chez elles. Le Japon et la Russie en feront autant. Pour partager ces coûts croissants, plusieurs de ces nations rassembleront une partie de leurs effectifs en une force militaire de la communauté internationale, regroupant des troupes conventionnelles et des forces de police. Elles formeront ainsi, d'abord occasionnellement, puis institutionnellement, une alliance face aux pirates et aux ennemis de l'ordre marchand. L'Alliance Atlantique, fondée contre la menace soviétique, deviendra peut-être le socle de ce rassemblement, qui se constituera parfois aussi en force des Nations Unies. Dans certains cas, l'Inde, la Chine et plusieurs des 11 s'y joindront. L'Alliance s'élargira un jour aux plus grandes firmes de l'hyperempire, en particulier militaires. Elle regroupera alors des armées nationales et des entreprises privées de mercenaires. Tous les pays de l'Alliance voudront surveiller les amis des ennemis. Par exemple, les musulmans d'Europe, d'Amérique ou de Chine devront peut-être un jour faire la preuve qu'ils ne sont pas liés à telle ou telle entité hostile, comme durent le faire les Japonais dans les années 1940 et les communistes dans les années 1950. De même, si le Mexique en vient un jour à être considéré par les États-Unis comme un pays dangereusement révolutionnaire, les Chicanos, de plus en plus nombreux, feront l'objet d'une stricte surveillance. Vers 2035 ou 2040, l'Alliance réalisera qu'elle n'a pas les moyens de maintenir sa domination sur l'ordre marchand. Épuisée financièrement et humainement par ces conflits, confrontée au même dilemme que l'Empire romain à partir du début de notre ère, les pays qui la composeront formeront alors l'ordre polycentrique et changeront de stratégie. Ils ne s'occuperont plus du reste du monde, réduiront leurs dépenses énergétiques et financières, instaureront un protectionnisme, disposeront leurs chariots en cercle et limiteront leur défense à la protection de leurs intérêts au sens le plus étroit. Ils chercheront à mettre en place un bouclier au-dessus de leur territoire pour surveiller et détruire toute arme ou aéronef détournée tentant de toucher leur sol. Des murs de plus en plus hauts seront dressés contre les pirates, sur le modèle du mur protégeant et isolant aujourd'hui Israël des attaques terroristes. L'Alliance considérera par exemple essentiel de maîtriser la situation en Méditerranée orientale et occidentale, en général à la demande des pays concernés. Pour voyager par avion vers les pays de l'Alliance, il faudra fournir des informations détaillées sur sa vie, et même peut-être laisser en gage ou en otage des biens ou des êtres chers. Là encore, une fois de plus, les technologies de pointe de l'économie de marché celles de l'hypersurveillance, participeront à la mise en place des moyens de la guerre et de la police. Pour autant, le succès ne sera pas assuré. On ne peut mettre sous cloche ni les marchés, ni les démocraties, ni les pirates.